Chapitre 38. Comme je vous l'ai déjà dit, l'affaire commence avec l'entrée en scène du sieur Brown. Ainsi débutait le récit de Marlowe. Vous qui avez roulé dans le Pacifique occidental, vous avez dû entendre parler de cet homme-là. C'était le maître bandit de la côte australienne, non pas qu'on l'y vit souvent, mais parce que ses exploits faisaient le fond de toutes les histoires de brigands que l'on raconte toujours aux nouveaux venus d'Angleterre. Le plus anodin des récits que l'on se répétait sur son compte, de la baie d'Éden au Cap York, eût suffi à faire pendre un homme si on l'eût fait au bon endroit. On ne manquait jamais d'ajouter qu'il avait sans doute pour père un baronnet. En tout cas, on était certain qu'il avait déserté, au premier temps des mines d'or, d'un navire de la métropole, et qu'il était devenu, en quelques années, la terreur de divers groupes d'îles polynésiennes. Il enlevait les indigènes. Il dépouillait jusqu'au pyjama un commerçant blanc installé à l'écart et, la plupart du temps, invitait à un duel au fusil sur la grève le pauvre diable qu'il venait de voler. Proposition qui eût été assez loyale, à sa façon, si le malheureux n'eût été à moitié mort de peur. Boucanier moderne, Brown était, à vrai dire, assez misérable, comme ses plus illustres devanciers. Mais ce qui le distinguait de ses confrères en brigandage, tels que Bully Hayes, le doucereux Pease, ou ce bandit parfumé, cet élégant à favori de jeune beau, connu sous le nom de Dick la Crotte, c'était, avec l'arrogance de sa piraterie, son véhément mépris pour l'humanité en général, et ses victimes en particulier. Les autres n'étaient que des brutes gourmandes et avides, mais Brown paraissait mû par des désirs complexes. Il dépouillait un individu pour l'apparent plaisir de lui témoigner son mépris, et il apportait au meurtre et à la mutilation d'un paisible et inoffensif étranger une application sauvage et haineuse, bien faite pour terroriser les plus téméraires des aventuriers. Au jour de sa plus grande gloire, il avait armé un trois-mâts, monté par un équipage mêlé de canaques et de baleiniers déserteurs, et se vantait, je ne sais avec quelle sincérité, d'être financièrement soutenu en sous-main par une très respectable maison de marchands de copra. Plus tard, il enleva, disait-on, la femme d'un missionnaire, une très jeune fille de Clapham, qui avait, dans un mouvement d'exaltation, épousé le pauvre Pied-Plat, et qui, tout à coup transplantée en Mélanésie, avait un peu perdu le nord. C'était une lugubre histoire. Malade au moment de son enlèvement, la malheureuse mourut sur le navire. Et le plus singulier de l'histoire, à en croire les raconteurs, c'est que Brown se laissa aller sur son corps à une explosion de sombre et violente douleur. C'en fut fait de sa chance à partir de ce moment. Il perdit son bateau sur des écueils au large de Malaita et disparut pendant un temps, comme s'il eût sombré avec le voilier. Puis, un peu plus tard, on entend parler de lui à Nuka Hiva, où il achète une vieille goélette réformée de la flotte française. À quelles honorables fins il destinait cette emplette, je ne saurais le dire. Mais il est évident que haut commissaire, consul, vaisseau de guerre et contrôle international rendaient les mers du Sud trop chaudes pour des gentilshommes de sa trempe. Il dut évidemment transférer plus loin dans l'Ouest la scène de ses opérations, car une année plus tard, il paya d'incroyable audace, mais pour un médiocre profit, dans une affaire tragicomique de la baie de Manille, où un gouverneur prévaricateur et un trésorier infidèle jouent le rôle principal. Après cela, il paraît s'être posté avec sa goélette pourrie autour des Philippines et s'être battu contre la mauvaise fortune jusqu'au jour fixé par le destin où, mêlé à l'histoire de Jim, il devient un complice aveugle des sombres puissances. Il m'a affirmé que lorsqu'un patrouilleur espagnol l'arrêta, il s'employait seulement au transport de quelques fusils pour les insurgés. Je ne vois pas très bien alors ce qu'il pouvait faire au large de la côte sud de Mindanao. Je suis convaincu, je vous l'avoue, qu'il rançonnait par terreur les villages indigènes de la côte. L'important, c'est que le patrouilleur, mettant une garde à son bord, le fit marcher avec lui de conserve jusqu'à Zamboanga. Mais en route, pour une raison quelconque, les deux bateaux durent faire escale dans un de ces nouveaux établissements espagnols, dont on n'a jamais rien fait en définitive, où ils ne trouvèrent pas seulement un fonctionnaire civil à terre, mais à l'ancre, dans la petite rade, une bonne grosse goélette de cabotage. C'est ce bateau, de tout point supérieur au sien, que Brown résolut de voler. De son propre aveu, il traversait une période de déveine. Le monde, qu'il avait, avec un dédain féroce et agressif, pressuré pendant 20 ans, ne lui avait laissé, pour tout avantage matériel, qu'un petit sac de dollars d'argent, si bien caché dans sa cabine que le diable lui-même ne l'aurait pas flairé. C'était tout, absolument tout. Il était las de son existence et n'avait pas peur de la mort. Mais cet homme, prêt avec une indifférence amère et goguenarde à risquer sa vie pour un caprice, avait une peur mortelle de la prison. La seule idée d'être enfermé lui donnait des sueurs froides, ébranlait ses nerfs, tournait son sang en eau et lui causait cette sorte d'instinctive horreur, cette épouvante qu'éprouverait un homme superstitieux à la pensée de subir l'étreinte d'un fantôme. C'est ce qui explique que le fonctionnaire civil venu à bord pour faire une enquête préliminaire sur la capture et poursuivre tout le jour des investigations assidues, repartit à terre à la nuit tombée, emmitouflé dans son manteau et en prenant bien soin de ne pas laisser sonner dans son sac tout le bien terrestre de Brown. Sur quoi, étant homme de parole, il s'arrangea, le lendemain soir, je crois, à dépêcher le garde-côte vers une mission d'extrême urgence. Ne pouvant détacher un équipage sur sa prise, le commandant du navire se contenta d'emporter, avant son départ, toutes les voiles de Brown jusqu'au dernier petit bout de toile, et eut soin de remorquer ses deux chaloupes à 3 000 de là sur la grève. Mais Brown possédait dans son équipage un indigène des Salomon, enlevé de bonne heure à son île natale et tout dévoué à son capitaine. C'était le meilleur de la bande. L'individu gagna à la nage le caboteur, ancré à quelques 500 mètres de là, emportant le bout d'un câble fait de tous les vêtements disponibles, déchirés et raboutés pour la circonstance. La mer était unie et la baie sombre comme une panse de vache, selon l'expression de Brown. Le nageur escalada les pavois avec l'extrémité du câble entre les dents. L'équipage du caboteur, composé de Tagal, était à terre et se payait une petite fête dans le village indigène. Les deux hommes de garde restés à bord s'éveillèrent tout à coup et virent le diable. Il avait des yeux de feu et courait sur le pont avec la rapidité de l'éclair. Paralysés par la terreur, ils tombèrent à genoux en se signant et en marmonnant des prières. Avec un long couteau trouvé dans la cambuse, l'insulaire des Salomon les poignarda l'un après l'autre, sans interrompre leurs oraisons, puis se mit avec patience à scier le câble de bastin qui céda tout à coup bruyamment sous la lame. Il lança alors un appel prudent dans le silence de la baie, et la bande de Brown, qui tendait tout ce temps une oreille attentive en scrutant la nuit, se mit à haler prudemment l'extrémité du câble. Moins de 5 minutes après, les deux goélettes s'accostaient avec un léger choc et un craquement de vergue. Sans perdre un instant, les hommes de Brown passèrent à bord du caboteur en emportant leurs armes à feu et une bonne provision de munitions. Ils étaient 16 en tout, 2 déserteurs de la flotte anglaise et un grand maigre, transfuge d'un navire de guerre yankee, une paire de blonds et simples scandinaves, un mulâtre un peu toqué, un chinois jovial qui faisait la cuisine, et le reste, racaille sans nom des mers du Sud. Aucun d'eux ne protesta. Brown les pliait à sa volonté, et Brown, indifférent à l'échafaud, fuyait devant le spectre d'une prison espagnole. Il ne leur laissa pas le temps de transborder assez de provisions. La nuit était calme, l'air chargé de rosée, et lorsqu'ils larguèrent les amarres, en mettant à la voile devant une faible brise de terre, nul frisson n'agita la toile humide. Leur vieille goélette parut se détacher doucement du bâtiment volé et s'évanouit sans bruit dans la nuit en se confondant avec la masse noire de la côte. Ils s'échappèrent. Brown m'a conté en détail leur passage à travers les détroits de Macassar. Ce fut une aventure affreuse et sans merci. À court de vivres et d'eau, ils abordèrent plusieurs navires indigènes pour leur en prendre un peu à chacun. Avec un bâtiment volé, Brown n'osait naturellement relâcher dans aucun port. Il n'avait pas d'argent pour rien acheter, pas de papier à présenter, et pas de mensonge assez plausible pour espérer se tirer d'affaire. Surpris une nuit à l'ancre, au large de Paolo Laut, un 3 mois arabe, naviguant sous pavillon hollandais, leur valut un peu de riz sale, un régime de bananes et un baril d'eau. 3 jours de coups de chien brumeux du nord-ouest poussèrent la goélette dans la mer de Java. Les vagues boueuses et jaunâtres aspergeaient cette collection de bandits affamés. Ils aperçurent des paquebots postes courant sur leur route immuable, croisèrent des bateaux anglais bien pourvus de vivres sous leurs flancs de fer rouillés, et qui, ancrés sur de petits fonds, attendaient un changement de temps ou un renversement de marée. Blanche et coquette sous ces deux mâts sveltes, une canonnière britannique coupa un jour leur route dans le lointain, et une autre fois une corvette hollandaise, toute noire sous sa lourde mâture, s'avança lentement de leur côté, en fumant dans la brume. Ils passèrent sans qu'on les vît, ou sans qu'on songeât à les regarder. Bande de brigands blêmes et émaciés, enragés par la faim et chassés par la peur. L'idée de Brown était de gagner Madagascar, où il espérait, sur des données peut-être fondées, vendre sa goélette à Tamatave, sans subir de questions embarrassantes, ou trouver, à son usage, des papiers plus ou moins truqués. Mais avant d'affronter la longue traversée de l'océan Indien, il lui fallait des vivres et de l'eau aussi. Peut-être avait-il entendu parler de Patousan, ou en avait-il seulement lu par hasard le nom, écrit en petits caractères sur une carte. Il devait s'agir d'un gros village d'État indigène, posté sur un fleuve, d'un établissement sans aucune défense, loin des routes fréquentées de la mer et des postes extrêmes des câbles sous-marins. Il avait déjà travaillé dans des endroits de ce genre, et maintenant il s'agissait d'une absolue nécessité, d'une question de vie ou de mort, ou plutôt de liberté. De liberté! On était sûr d'y trouver des provisions, bœufs, riz, patates douces. Le triste équipage s'en léchait les babines. On pourrait se procurer une cargaison de marchandises, et qui sait, faire main basse peut-être sur de vraies espèces sonnantes et trébuchantes. On arrive à faire joliment cracher certains de ses chefs et notables de village. Brown m'affirmait qu'il leur eût rôti les pieds plutôt que de se laisser frustrer de ses espoirs. Je le crois volontiers. Ces hommes en étaient persuadés aussi. Ils ne crièrent pas tout haut leur enthousiasme, car c'était une bande plutôt muette, mais ils se préparèrent avec une ardeur de loup. La chance les servit en ce qui a trait au temps. Quelques jours de calme auraient déchaîné d'indicibles horreurs à bord de cette goélette, mais grâce aux brises de terre et de mer, moins d'une semaine après avoir franchi les détroits de Sunda, le navire mouillait au large de l'estuaire de Batu Kring, à une portée de pistolet du village de pêcheurs. 14 des aventuriers s'entassèrent dans la chaloupe de la goélette. C'était une vaste embarcation qui avait servi à décharger des cargaisons, et s'engagèrent sur le fleuve, tandis que 2 de leurs compagnons restaient à la garde du navire, avec des vivres en quantité suffisante pour ne pas mourir de faim avant 10 jours. Vent et marée aidèrent les rameurs, et au début d'un après-midi, le grand canot blanc, poussé par la brise de mer qui gonflait sa guenille de toile, amena dans le bras de Patousan son équipage de 14 épouvantails assortis, qui fixaient devant eux des regards voraces et gardaient le doigt sur la détente de leurs vieux fusils. Brown escomptait la surprise et l'épouvante de son arrivée. La chaloupe montait avec le flot. La redoute du Raja resta muette. De part et d'autre du fleuve, les premières maisons semblaient abandonnées. Quelques canots fuyaient très loin sur la rivière. Brown fut surpris de l'importance de la ville. Un profond silence régnait. Au milieu des maisons, le vent tomba. 2 rames servirent à maintenir la chaloupe contre le courant, car Brown pensait s'installer au cœur de la ville avant que les habitants eussent le temps de songer à la résistance. Mais le chef du village de pêcheurs de Batu Kring avait pu envoyer à temps un message d'alarme. Au moment où la chaloupe arrivait en face de la mosquée, édifice construit par Doramin avec des bouquets de corail taillés au pinacle des pignons et des toits, l'espace ouvert devant le bâtiment était plein d'indigènes. Un grand cri monta, suivi d'un vacarme de gongs tout le long de la rivière. D'un point en amont, deux petites pièces de 6 en cuivre crachèrent leur mitraille qui effleura la nappe d'eau déserte en faisant gicler au soleil des jets d'eau étincelants. Devant la mosquée, une foule hurlante se mit à tirer des salves qui fouettaient en travers le courant du fleuve. Sur les deux rives crépitait une fusillade irrégulière dirigée contre la chaloupe. Les hommes de Brown répondirent par une décharge rapide et désordonnée. Ils avaient rentré leur rame. La marée se renverse très vite sur cette rivière, et à demi cachée par la fumée, au milieu du torrent, la chaloupe se mit à dériver par l'arrière. Sur les deux berges, la fumée s'épaississait aussi, et formait, au-dessous des toits, une ligne étale, comme ces nuages allongés que l'on voit couper un flanc de montagne. Le tumulte des cris de guerre, l'appel vibrant des gongs, le sourd ronflement des tambours, les hurlements de rage, le fracas des salves faisaient un affreux vacarme qui étourdissait Brown. Il n'en restait pas moins pourtant à la barre et s'exaltait à une frénésie de haine et de fureur contre ces gens qui osaient se défendre. Deux de ces hommes avaient été blessés et il voyait sa retraite coupée au-dessous de la ville par des pirogues sorties de l'enceinte de Tungkualang. Il en comptait 6, bourrés de guerriers. Ainsi traqué, il aperçut l'embouchure du ruisseau que Jim avait sauté à marée basse et qui était alors plein. Il y guida la chaloupe, fit débarquer ses hommes et s'installa avec eux sur une petite éminence à quelque 900 mètres de la redoute que cette position commandait. Les pentes du monticule étaient dénudées, mais quelques arbres en couronnaient le faîte. Les bandits se mirent à abattre ces arbres pour en faire un parapet et se trouvèrent assez bien retranchés avant la tombée du jour. Les bateaux du Raja croisaient pendant ce temps sur le fleuve avec une singulière neutralité. Quand le soleil se coucha, de grands feux de broussailles allumés sur les deux rives et entre la double ligne des maisons firent saillir en noir relief les toits, les groupes sveltes des palmiers, les bouquets lourds des arbres fruitiers. Brown fit mettre le feu à l'herbe autour de sa position. Un anneau bas de maigres flammes courut rapidement sur le flanc de la colline, en soulevant de lourdes volutes de fumée. De temps en temps, un buisson sec prenait feu avec un grand bruit clair. L'incendie dégagea toute une bande de terrain pour les coups de la petite troupe. Il expira sur la lisière de la forêt et sur la berge boueuse du ruisseau. Un lopin de jungle luxuriante, allongé dans un creux humide entre le monticule et l'enceinte du Raja, arrêta les flammes de ce côté-là, avec force pétillement et détonation de tiges de bambou. Le ciel sombre et velouté fourmillait d'étoiles. Sur le sol noirci rampaient des bouffées de fumée paresseuse qu'une petite brise vint bientôt chasser. Brown s'attendait à une attaque, dès que la marée serait assez haute pour permettre aux pirogues qui lui avaient coupé la retraite de s'engager dans le ruisseau. Il était bien certain, en tout cas, que l'ennemi ferait une tentative pour enlever sa chaloupe. Échouée au pied de la colline, elle formait sur la lueur vague de la vase humide une masse haute et sombre. Mais les bateaux ne firent aucune espèce de démonstration. Par-dessus la palissade et le logis du Raja, Brown voyait leur lumière sur le fleuve. Ils paraissaient ancrés au milieu du courant. D'autres lueurs couraient sur l'eau d'une berge à l'autre. Il y avait aussi des lumières immobiles qui scintillaient, en amont, sur les longs murs des maisons jusqu'au premier coude du fleuve, et d'autres encore plus loin, isolées dans l'intérieur des terres. La clarté des grands feux révélait à perte de vue des pâtés de maisons, des toits, des bâtisses noires. C'était une immense colonie. Aplatis derrière les troncs abattus, les 14 téméraires agresseurs levaient le menton pour considérer l'animation de cette ville, qui paraissait remonter sur des lieux au bord de la rivière et fourmiller de milliers d'hommes en fureur. Ils ne se parlaient pas. De temps à autre, ils entendaient un grand cri ou un coup de fusil tiré quelque part, très loin. Mais autour de leur position, tout n'était que paix, obscurité et silence. Ils auraient pu se croire oubliés, comme si l'agitation qui tenait toute la populace éveillée n'eût rien eu à voir avec eux, comme s'ils eussent été déjà morts. Chapitre 39. Tous les événements de cette nuit-là ont une grosse importance, puisqu'ils amenèrent une situation qui resta inchangée jusqu'au retour de Jim. Jim était parti depuis plus d'une semaine dans l'intérieur du pays, et c'est Dane Warris qui avait pris les premières mesures de défense. Ce jeune homme brave et intelligent, qui savait se battre à la façon des Blancs, aurait voulu en finir tout de suite avec les agresseurs. Mais il lui fallut se plier à l'avis de ses compatriotes. Il n'avait pas, comme Jim, un prestige de race et une réputation de puissance invincible et surhumaine. Il n'était pas une incarnation visible, tangible, d'une vérité absolue et d'une infaillible victoire. Pour aimer, honorer et admirer qu'il fût, il était encore l'un d'eux, tandis que Jim était l'un de nous. De plus, le Blanc, rempart de force en lui-même, était invulnérable, tandis que Dane Warris pouvait être tué. Ses pensées inexprimées commandaient l'opinion des principaux chefs de la ville, qui avaient choisi le fort de Jim pour s'y réunir et y délibérer sur la situation, comme s'ils eussent pensé trouver inspiration et courage dans la demeure du Blanc absent. Le feu des bandits avait été si bien dirigé ou si heureux qu'une demi-douzaine d'indigènes étaient déjà hors de combat. On avait couché les blessés sous la véranda, où les femmes venaient les panser. Femmes et enfants de la basse ville avaient, dès la première alarme, été envoyés au fort, où Bijou commandait avec beaucoup d'autorité et de cœur. Elle était très écoutée par les gens de Jim, qui avaient encore quitté leur petit domaine autour de l'enceinte pour en former la garnison. Les réfugiés se pressaient aux côtés de la jeune femme, qui, pendant toute l'affaire et jusqu'à sa fin désastreuse, fit montre d'une extraordinaire ardeur combative. C'est à elle qu'à la première nouvelle du danger, Dane Warris avait couru tout de suite, car Jim était dans la ville le seul détenteur d'une provision de poudre. Stein, avec lequel il gardait des relations épistolaires intimes, avait obtenu une autorisation spéciale du gouvernement hollandais pour en exporter 500 barils à Patousan. La poudrière était une petite hutte en tronc brut, entièrement recouverte de terre, dont, en l'absence de Jim, la jeune femme conservait la clé. Au conseil tenu à 11 heures du soir dans la salle à manger de Jim, elle appuya l'avis d'action immédiate et vigoureuse formulée par Dane Warris. Elle restait debout près du fauteuil vide de Jim et fit un discours belliqueux et passionné qui, sur l'instant, souleva dans l'assemblée des murmures d'approbation. Le vieux Doramine, qu'on n'avait plus vu hors de son logis depuis plus d'un an, s'était fait apporter à grand-peine. Il était naturellement le chef de l'assemblée. Le conseil était d'humeur impitoyable, et l'avis du vieillard aurait entraîné une action décisive. Mais je suis convaincu que la crainte du courage fougueux de son fils l'empêcha de prononcer le mot nécessaire, et l'on pencha pour l'expectative. Un certain Haji Saman démontra tout au long que ces hommes féroces et tyranniques étaient en tout état de cause voués à une mort certaine. Ou bien, cramponnés à leur colline, ils y mourraient de faim, ou tentant de regagner leur chaloupe, ils seraient tués par des hommes postés en embuscade de l'autre côté du ruisseau, ou enfin, faisant une percée pour fuir dans la forêt, ils y périraient les uns après les autres. Il affirmait que d'ingénieux stratagèmes permettrait de venir à bout des féroces étrangers sans courir le risque d'une bataille. Et ces paroles furent d'un grand poids, surtout auprès des habitants de la ville même. Ce qui les troublait, c'était l'inaction gardée par les bateaux du Raja au moment décisif. Le diplomate Kassim représentait Tunku Alang au conseil. Il parlait peu et écoutait avec un sourire courtois et impénétrable. Pendant la séance, des messages reçus de minute en minute rapportaient les faits et gestes des assaillants. Folles rumeurs et exagérations se donnaient libre cours. Il y avait, à l'embouchure du fleuve, un énorme vaisseau, avec de gros canons et un nombreux équipage de blancs et de noirs, tous hommes à mine sanguinaire. Ils remontaient le courant avec plusieurs embarcations pour exterminer tout ce qui était en vie. Un sentiment de danger imminent et insaisissable accablait la populace. Tout à coup, il y eut dans la cour une panique parmi les gens. De grands cris s'élevèrent, on galopait, les enfants hurlèrent. Haji Saman sortit pour calmer la foule. Puis une sentinelle du fort, tirant sur une ombre mouvante au ras de l'eau, faillit tuer un villageois qui amenait dans un canot ses femmes avec le plus précieux de ses ustensiles domestiques et une douzaine de volailles. Il en résulta un surcroît de confusion. Cependant, les palabres se poursuivaient dans la maison de Jim, en présence de la jeune femme. Pesant, le visage farouche, Doramine regardait tour à tour les orateurs et respirait lentement comme un taureau. Il ne parla qu'en dernier, lorsque Cassim eut déclaré que les bateaux du Raja allaient être rappelés parce que Tunku Alang avait besoin de ses hommes pour défendre son domaine. Malgré Bijou qui le suppliait au nom de Jim de parler, Dane Waris ne voulut formuler aucune opinion en présence de son père. Dans son désir de voir sans retard chasser les bandits, la jeune femme lui offrait les hommes de Jim. Mais après avoir regardé Doramine, Dane Waris se contenta de secouer la tête. On décida, en définitive, avant de lever le conseil, d'occuper fortement les maisons voisines du ruisseau pour commander l'embarcation ennemie. On feindrait de ne pas s'en occuper pour laisser aux Blancs la tentation d'embarquer, sur quoi un feu bien dirigé les tuerait presque tous. Pour couper la retraite aux survivants éventuels et pour empêcher d'autres assaillants d'arriver à la rescousse, Dane Waris reçut de Doramine l'ordre de se porter, avec une troupe de bugis en armes, vers un point de la rivière situé à 10 milles au-dessous de Patouzan, de se retrancher sur la berge et de barrer le fleuve avec ses embarcations. Je ne crois pas du tout que Doramine redouta l'arrivée de forces nouvelles. Sa décision était motivée, à mon sens, par le seul désir de mettre son fils à l'abri du danger. Pour prévenir un assaut de la ville, on devait, à l'aube, élever une barricade sur la rive gauche, à l'extrémité de la rue. Le vieux Nakoda fit part de son intention de commander là en personne. Une distribution de poudre, de balles et de capsules fut aussitôt effectuée sous la direction de la jeune femme. Plusieurs messagers devaient être dépêchés en différentes directions vers Jim que l'on ne savait exactement où trouver. Ces hommes partirent au petit jour, mais avant ce moment-là, Cassim avait su entrer en communication avec les assiégés. Diplomate accompli, ce confident du Raja quitta le fort pour rejoindre son maître et emmena dans sa barque Cornelius, qu'il avait trouvé rôdant, sans mot dire, dans la cour parmi la foule. Cassim avait son plan, pour la réalisation duquel Cornelius devait lui servir d'interprète. Aussi, vers le matin, au moment où il méditait sur sa lamentable position, Brown entendit-il sortir du fourré marécageux une voix tremblante qui se forçait pour demander en anglais, sur un ton amical, la permission, moyennant promesse de sécurité personnelle, de venir le trouver pour lui soumettre une proposition de la plus haute importance. Brown se sentit le cœur inondé de joie. Si on lui parlait, il cessait d'être une bête sauvage, traquée. La cordialité de ses accents rendait vaine la douloureuse tension d'une vigilance anxieuse, comme celle d'aveugles qui ne savent de quel côté attendre un coup mortel. Brown affecta pourtant une grande répugnance. La voix parlait toujours. C'était, à l'entendre, celle d'un blanc, d'un malheureux vieillard ruiné qui habitait le pays depuis des années. Une brume humide et glacée masquait les flancs de la colline, et après un nouvel échange d'interpellations, Brown se décida. « Allons, montez, mais seul, n'est-ce pas ?»« À vrai dire, m'avouait-il, en tremblant de rage au souvenir de son impuissance, cela n'eût pu faire aucune différence. » Les aventuriers ne voyaient pas à plus de quelques mètres, et nulle trahison n'eût pu aggraver leur situation. Bientôt, ils distinguèrent vaguement Cornelius. Pieds nus dans ses vêtements de tous les jours, chemise crasseuse et pantalons en loques, avec un casque de liège à visière brisée, le métis montait obliquement vers la barricade, hésitait, s'arrêtait dans une posture inquiète pour écouter. « Arrivez donc, vous n'avez rien à craindre !» cria Brown, tandis que ses hommes ouvraient de grands yeux. Tous leurs espoirs de salut se trouvaient soudain concentrés sur cet individu chétif et décrépit qui, maladroitement et sans mot dire, escaladait un tronc d'arbre abattu. Tout frissonnant, il dirigeait son regard aigre et méfiant sur le groupe de bandits barbus, anxieux, enfiévrés par le manque de sommeil. Une demi-heure de conversation confidentielle avec Cornelius ouvrit les yeux de Brown sur l'état des affaires intérieures du Patousan. Il fut immédiatement en éveil. Il y avait des possibilités, d'immenses possibilités. Mais avant de discuter les propositions de Cornelius, il stipula, comme garantie de bonne foi, un envoi de vivres. Cornelius le quitta pour descendre nonchalamment la pente vers la demeure du Raja. Quelques minutes plus tard, des serviteurs de Tunku Alang apportaient une assez chiche provision de riz, de poivre et de poisson sec. C'était infiniment mieux que rien. Un peu après, Cornelius amena Cassim. Le Malais avançait avec une mine de pleine et joviale confiance. Il avait les pieds dans des sandales, et un sac de toile bleu sombre couvrait son corps du cou aux chevilles. Il serra discrètement la main de Brown, et les trois hommes se retirèrent à l'écart pour conférer. Retrouvant leur confiance, les compagnons de Brown s'allongeaient de grandes tapes dans le dos et lançaient vers leur chef des regards d'intelligence, tout en s'occupant des préparatifs du repas. Cassim haïssait fort Doramine et ses bougies, mais il exécrait plus encore le nouvel état de choses. Il s'était dit que ces Blancs, unis aux partisans du Raja, pourraient attaquer et battre les bougies avant le retour de Jim. Il en résulterait fatalement une défection en masse des habitants de la ville, et s'en serait fini du règne de ce Blanc qui protégeait les pauvres. Après quoi il serait facile de se défaire de ses nouveaux alliés dépourvus de tout appui. Le fin matois savait bien reconnaître la différence des caractères, et avait assez vu de Blanc pour s'apercevoir que les nouveaux venus étaient des réprouvés, des hommes sans patrie. Brown conservait une attitude sévère et impénétrable. Le premier appel de la voix de Cornelius, demandant à lui parler, n'avait fait luire à ses yeux qu'un espoir de salut. Moins d'une heure après, de nouvelles pensées bouillonnaient dans sa tête. Poussé par une extrême nécessité, il avait abordé sur cette côte pour y voler des vivres, faire main basse peut-être sur quelques tonnes de gomme ou de caoutchouc, voire sur une poignée de dollars, et s'y était trouvé empêtré dans des dangers mortels. Et maintenant, ces ouvertures de Cassim faisaient luire à ses yeux la perspective de faire main basse sur tout le pays. Un maudit individu y était déjà presque arrivé, malgré son isolement. Il ne paraissait pourtant guère avoir tout à fait réussi. Peut-être pourraient-ils travailler ensemble et pressurer à sec le pays avant de s'en aller tranquillement. Ces négociations avec Cassim révélèrent à Brown qu'il était censé posséder, à l'embouchure du fleuve, un grand navire avec un gros équipage. Cassim le suppliait d'appeler sans délai ce navire à la rescousse, avec ses canons et ses hommes, pour le service du Raja. Brown feignit d'y consentir, et la discussion se poursuivit sur cette base, avec une méfiance mutuelle. Trois fois dans le courant de la matinée, le jovial et actif Cassim descendit pour consulter le Raja et remonta vivement à grandes enjambées. Tout en débattant les conditions du marché, Brown s'égayait avec une sombre ironie à l'idée de sa misérable goélette, chargée d'un tas d'immondices pour tout frais, qui passait pour un navire de guerre, et de son nombreux équipage, représenté par un cuisinier chinois et un ancien pilleur d'épaves boiteux de l'Evuka. L'après-midi, il obtint de nouvelles distributions de vivres, une promesse d'argent et une provision de nattes pour permettre à ses hommes de se faire des abris. Protégés du soleil torride, les aventuriers se couchèrent et ne tardèrent pas à ronfler. Mais assis en pleine vue sur l'un des arbres abattus, Brown repaissait ses yeux du spectacle de la ville et de la rivière. Il y avait là de bien belles promesses de pillage. À l'aise maintenant dans le camp, Cornelius se tenait près de lui, bavardait, lui désignait les lieux, lui donnait des conseils, commentait à sa façon le caractère de Jim et les événements des trois dernières années. Feignant l'indifférence et le regard perdu, Brown écoutait pourtant avec l'attention la plus vive. Il n'arrivait pas à s'expliquer clairement l'espèce d'homme que pouvait être Jim. « Comment s'appelle-t-il donc, d'abord ?»« Jim, cela ne suffit pas pour un nom d'homme. »« On l'appelle Tuan Jim, ici, » répondit Cornelius avec mépris. « Lord Jim, si vous voulez. »« Qui est-il ? D'où sort-il ? » interrogeait Brown. « Quel genre d'homme est-ce ? Est-il anglais ? » ?»« Oui, c'est un anglais, Mais moi aussi je suis anglais, anglais de Malacca. C'est un imbécile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le tuer. Après quoi vous serez roi ici. Tout lui appartient, expliquait Cornelius. J'ai idée qu'on pourra l'obliger à partager avant longtemps, commenta Brown à mi-voix. Non, non, ce qu'il faut, c'est le tuer à la première occasion. Et alors, vous pourrez faire ce que vous voudrez, insista Cornelius avec énergie. Voici des années que je vis ici, et c'est un conseil d'amis que je vous donne. L'après-midi se passèrent de tels entretiens, et dans la contemplation de la ville, où Brown voyait déjà une proie désignée, ses hommes se reposaient. Ce jour-là, les canots de Denwaris quittèrent un à un la rive opposée au ruisseau et descendirent le courant pour couper la retraite des aventuriers. Brown ne savait rien de cette expédition et Cassim, qui gravit la colline une heure après le coucher du soleil, se garda bien de l'en informer. Il voulait que le navire des Blancs remontât la rivière et craignait qu'une telle nouvelle fût de nature à l'en dissuader. Il pressait fort Brown d'envoyer l'ordre et offrait un messager de confiance qui, pour plus de sécurité, disait-il, gagnerait par terre l'embouchure du fleuve et irait porter l'ordre à bord. Après réflexion, Brown jugea intéressant d'écrire ces simples mots sur une page arrachée à son carnet. « Tout va bien, grosse affaire, retenez le bonhomme. » Le messager obtus choisi par Cassim s'acquitta fidèlement de sa mission et fut récompensé de son zèle en se sentant précipité, la tête la première, dans la cale vide de la goélette, par le pilleur d'épaves et le chinois, qui s'empressèrent de replacer les panneaux. Ce qu'il advint du pauvre diable, Brown ne me l'a pas dit. Chapitre 40. Le but de Brown était de gagner du temps et de berner Cassim, en prêtant l'oreille à sa diplomatie. Pour l'affaire sérieuse qu'il entrevoyait, il sentait, à son corps défendant, que c'était avec le Blanc qu'il faudrait travailler. Il ne s'imaginait pas qu'un tel homme, qui devait être joliment fort, somme toute, pour avoir ainsi empaumé les indigènes, pût refuser son aide. C'en serait fait pour lui, à l'avenir, de la nécessité des lentes, prudentes et dangereuses du prix, seule permise à un individu isolé. Brown lui apporterait le pouvoir. Personne ne saurait résister à une telle offre. Le tout était d'arriver à une bonne entente. On partagerait, bien entendu. La perspective de trouver à portée de sa main un fort, un vrai fort, avec de l'artillerie, il tenait ce détail de Cornelius, émoustillait fort l'aventurier. Qu'il y entrât seulement, et il imposerait des conditions modestes. Pas trop médiocres, pourtant. L'homme ne devait pas être un imbécile. Il travaillerait comme des frères. Jusqu'au jour où le moment serait venu de la querelle et du coup de feu qui réglerait tous les comptes. Dans sa farouche impatience de pillage, il eût voulu déjà se trouver en présence de l'homme. Il se voyait le pays entre les mains pour le déchirer, le pressurer et le rejeter à son gré. En attendant, il fallait cajoler Cassim pour en obtenir des vivres et pour s'assurer d'une seconde planche de salut. Mais le principal, c'était d'avoir de quoi manger d'un jour à l'autre. Brown ne répugnait nullement, d'ailleurs, à l'idée de se battre pour le compte du Rajah et de donner une leçon à des gens qu'il avait reçus à coups de fusil. Il goûtait à l'avance l'ivresse des combats. Je regrette de ne pouvoir vous rapporter les paroles mêmes de Brown pour vous raconter cette partie de l'histoire que, naturellement, je tiens surtout de lui. Dans le langage violent et heurté de cet homme, qui, la main de la mort à la gorge, me dévoilait ses pensées, il y avait une cruauté naturelle, une attitude étrange et vengeresse à l'endroit de son propre passé, et une foi aveugle dans la légitimité de sa volonté, en opposition avec l'humanité tout entière. C'était un sentiment pareil à celui qui poussait le chef d'une horde de bandits errants à s'intituler fièrement « le fléau de Dieu ». Il est bien évident que la férocité monstrueuse et instinctive qui conditionne un tel caractère était exaspérée par l'insuccès, la mauvaise fortune et la situation désespérée où se voyait Brown. Mais il y a plus remarquable encore. Pendant qu'il négociait des alliances mensongères, réglait déjà dans son esprit le sort du Blanc et intriguait d'un ton hautain et négligent avec Cassim, on sentait que ce qu'il désirait réellement et presque malgré lui, c'était de saccager cette ville de la jungle qu'il avait défiée, de la voir semée de cadavres et livrée aux flammes. En écoutant sa voix impitoyable et haletante, je me le représentais sur la colline, en face de la ville qu'il peuplait d'images de meurtres et de rapines. Le quartier voisin du ruisseau offrait un air d'abandon, bien qu'en réalité chaque maison abritât un groupe d'hommes en armes et sur le qui-vive. Tout à coup, par-delà la vaste expansion de terrains vagues semés de fourrés bas et de buissons épais, d'excavations et de tas de décombres séparés par des sentiers, un individu solitaire et très petit à cette distance se hasarda dans l'ouverture déserte de la rue, entre les sombres bâtisses closes et mortes qui en bordaient l'extrémité. Peut-être était-ce un des réfugiés qui venait de l'autre rive du fleuve pour chercher quelque objet d'usage domestique. Si loin de la colline dont le séparait le ruisseau, il se croyait évidemment en parfaite sécurité. Au coude même de la rue s'élevait une légère barricade dressée à la hâte et pleine de ses amis. Brown aperçut l'homme et appela soudain le déserteur Yankee qui était pour lui une sorte de lieutenant. Maigre, avec des membres dégingandés et un visage de bois, le grand diable s'avança en traînant nonchalamment son fusil. Quand il comprit ce que son chef attendait de lui, un sourire homicide et vaniteux découvrit ses dents, en creusant deux plis profonds dans ses joues blêmes et tannées. Il se vantait de son adresse au tir. Un genou à terre, il prit pour point de mire un trou dans les branches intactes d'un tronc d'arbre, pressa la détente et se redressa aussitôt pour regarder. Dans le lointain, l'homme avait tourné la tête. Il fit un pas en avant, parut hésiter et tomba soudain sur les mains et les genoux. Dans le silence qui suivit la sèche détonation, le tireur, les yeux fixés sur sa victime, opina que la santé de ce malin-là ne donnerait plus l'inquiétude à ses amis. Les membres de l'homme s'agitaient sous son corps, en une vaine tentative pour se traîner en rampant. Dans l'espace vide monta un cri multiple d'effroi et de stupeur. L'homme s'aplatit, le visage contre terre, et ne bougea plus. « C'était pour leur montrer ce dont nous étions capables, m'expliquait Brown, et pour semer chez eux une terreur de mort soudaine. C'est cela que nous cherchions. Ils étaient 200 contre un, et il y avait là de quoi leur donner à réfléchir pendant la nuit. Aucun d'eux ne soupçonnait la possibilité d'un coup de feu tiré à pareille distance. Ce gueux du Raja dégringola la colline avec des yeux hors de la tête. En me disant cela, Brown levait sa main tremblante pour essuyer l'écume sur ses lèvres bleues. 200 contre un, un coup de terreur, de terreur, de terreur, je vous dis. Lui aussi, les yeux lui sortaient des orbites. Il se renversa, griffant l'air de ses doigts noueux, puis, à nouveau assis, voûté et velu, il me lança un coup d'œil oblique, comme un homme bête des légendes populaires. Il gardait la bouche ouverte en une affreuse et pitoyable agonie, et resta longtemps, au sortir de cette crise, sans reprendre haleine. Il y a des spectacles que l'on n'oublie jamais. Pour attirer le feu de l'ennemi et situer les groupes qui pouvaient se cacher dans les fourrés le long du ruisseau, Brown ordonna à l'insulaire des Salomon de descendre à la chaloupe pour en rapporter un aviron, comme on envoie un épagnol chercher un bâton dans l'eau. Mais cette tentative échoua, et l'homme revint sans avoir essuyé le moindre coup de feu. « Il n'y a personne, » opinèrent quelques-uns des bandits. « Ce n'est pas naturel, » remarqua le Yankee. À ce moment-là, Cassim était reparti, très impressionné, fort satisfait, mais assez inquiet aussi. Poursuivant ses machinations tortueuses, il avait dépêché un messager à Dane Waris pour l'inciter à guetter le navire des Blancs qu'il savait devoir bientôt remonter la rivière. Il en diminuait l'importance et exhortait le jeune homme à s'opposer à son passage. Cette double manœuvre servait ses desseins en laissant diviser les forces bugies que le combat affaiblirait. Il avait par ailleurs envoyé le jour même un mot aux chefs bugies assemblés en ville en leur affirmant qu'il s'efforçait d'amener les assaillants à se retirer. Ces messages au fort réclamaient instamment de la poudre pour les hommes du Raja. Il y avait bien longtemps que Tunku Alang n'avait reçu de poudre pour la vingtaine de vieux mousquets qui se rouillaient au râtelier de la salle d'audience. Les communications établies au grand jour entre le palais et la colline troublèrent fort les esprits. Il était temps de prendre parti, commençait-on à chuchoter. Il allait bientôt y avoir du sang versé, et de grandes misères s'ensuivraient pour beaucoup. L'édifice social élevé par les mains de Jim, cette existence paisible et ordonnée, où chacun était assuré du lendemain, paraissait ce soir-là voué à la ruine, prêt à s'effondrer dans le sang. Les plus pauvres des citadins cherchaient déjà un refuge dans la brousse où remontait le fleuve. Nombre de membres de la classe aisée jugèrent opportun d'aller faire leur cour au Raja, dont les jeunes partisans les bousculèrent rudement. À moitié hors de lui de terreur et d'indécision, le vieux Tunku Alang gardait un silence morne où les injuriait violemment pour oser se présenter les mains vides. Il s'en allait terrorisé. Seul, le vieux Doramin gardait toute autorité sur ses compatriotes et poursuivait inflexiblement ses desseins. Enfoui dans un vaste fauteuil, derrière la barricade improvisée, il donnait ses ordres d'une voix rauque et profonde, imperturbable comme un sourd au milieu des rumeurs volantes. Le crépuscule tomba, cachant le cadavre du mort qui restait les bras écartés, comme s'il eût été cloué au sol, et dans sa lente révolution, la sphère nocturne s'immobilisa au-dessus de Patouzan, en inondant la terre de la lueur scintillante de ces mondes sans nombre. Dans la partie exposée de la ville, de grands feux montaient à nouveau le long de l'unique rue, éclairant de distance en distance les lignes tombantes des toits, des fragments de murs hérissés et confusément entassés, une hutte tout entière, détachée dans la lumière, sur les raies noires verticales d'un groupe de hauts pilotis. Toute la rangée des maisons, illuminée par places par des flammes dansantes, semblait s'enfoncer tortueusement le long de la rivière jusqu'au cœur d'ombre du pays. Un grand silence, où jouait la lueur des feux alignés, pesait sur l'ombre, jusqu'au pied de la colline. Mais sur l'autre rive du fleuve, toute sombre, en dehors d'un feu solitaire, allumé devant le fort sur la berge, montait dans l'air une rumeur sans cesse accrue, que l'on eût pu prendre pour un piétinement de multitude, pour le bourdonnement de voix sans nombre, pour un bruit de cataracte infiniment lointain. C'est alors, m'avoua Brown, que le dos tourné à ses compagnons et les yeux plongeant dans la nuit, il se sentit, malgré son dédain pour les hommes et sa foi forcenée en lui-même, envahi par la conviction qu'il avait fini par se précipiter tête en avant contre un mur de pierre. Si sa chaloupe eût été à flot à ce moment-là, il aurait probablement tenté de s'enfuir et affronté le risque d'une longue chasse sur le fleuve et de la faim sur la mer. Il est d'ailleurs peu probable qu'il eût réussi à s'échapper. En tout cas, il ne s'y risqua point. La minute suivante, il éprouva la passagère tentation de se lancer à l'assaut de la ville, mais il comprit que dans la rue éclairée où il arriverait bientôt, on tirerait des maisons sur ses hommes comme sur des chiens. Les indigènes étaient 200 contre 1, se disait-il, tandis que pressés autour de deux tas de braises rougeoyantes, ses compagnons grignotaient les dernières bananes et faisaient griller les quelques ignames dus à la diplomatie de Cassim. Assis parmi eux, Cornelius somnolait d'un air maussade. Tout à coup, l'un des blancs se souvint qu'il restait du tabac dans la chaloupe, et, encouragé par l'impunité de l'homme des Salomon, déclara qu'il allait le chercher. Cette perspective tira ses compagnons de leur accablement. Brown, dont il demandait l'autorisation, répondit dédaigneusement « Allez donc vous faire foutre !» Il ne voyait pas de danger à descendre dans la nuit jusqu'au vaisseau. L'homme enjamba un tronc d'arbre et disparut. Un instant après, on l'entendait grimper dans la chaloupe puis en ressortir. « Je l'ai » cria-t-il. Un éclair et une détonation soulignèrent ses paroles au pied de la colline. « Touché !» gémit l'homme. « Attention, attention, je suis touché !» Et aussitôt tous les fusils partirent. Comme un petit volcan, la colline vomissait dans la nuit flammes et tumultes, et lorsqu'à force de jurons et de coups, Brown et le Yankee eurent fait cesser la fusillade affolée, un gémissement profond et douloureux, monté de la berge, fut suivi par une plainte dont la déchirante tristesse était comme un poison qui glace le sang dans les veines. Alors, de l'autre côté du ruisseau, une voix forte prononça des paroles distinctes et incompréhensibles. « Que personne ne tire !» hurla Brown. « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Entendez-vous sur la colline ? Entendez-vous ? Entendez-vous ? » répéta la voix à trois reprises. Cornelius traduisit et transmit la réponse. « Parlez !» cria Brown. « Nous écoutons !» Alors, haute et sonore comme celle d'un héros, sans cesse déplacée à la limite des terrains vagues, la voix proclama qu'il ne pouvait plus y avoir confiance, compassion, entente ou paix entre les membres de la nation Bugie vivant à Patousan et les hommes de la colline ou ceux qui les suivaient. Un buisson s'agita, une salve partit au hasard. « C'est idiot !» grommela d'un ton furieux le Yankee en posant sa crosse à terre. Cornelius traduisait. Le blessé, au pied de la colline, cria par deux fois « Venez me chercher ! Venez me chercher !» puis continua à geindre. Tant qu'il était resté contre le fond sombre de la colline, puis s'était tenu accroupi dans la chaloupe, il n'avait guère couru le danger. Mais la joie d'avoir déniché le tabac lui avait fait oublier toute prudence, et il avait sauté du mauvais côté de la barque. Sa silhouette se détachait sur la haute masse blanche et sèche. Le ruisseau n'avait guère plus de 7 pieds de large, à cet endroit, et un guetteur se trouvait justement embusqué dans un fourré de l'autre rive. C'était un Bugie de Tondaro, récemment arrivé à Patousan, et parent de l'homme tué l'après-midi. La longue portée du fameux coup avait vraiment terrifié les assistants. En pleine sécurité apparente, sous les yeux de ses amis, l'homme était tombé avec une plaisanterie aux lèvres, et l'on voyait dans ce meurtre un acte d'atrocité qui avait soulevé une rage furieuse. Ce Silapa, son parent, était alors auprès de Doramine, derrière la barricade, à quelques pas à peine. Vous qui avez vu ces gens-là, vous reconnaîtrez que l'individu fit montre d'un courage tout particulier, en s'offrant à transmettre le message, seul dans la nuit. Rampant en terrain découvert, il avait obliqué vers la gauche et s'était trouvé en face de la chaloupe. Il fut surpris par le cri de l'homme au tabac. Il s'assit à terre, le fusil épaulé, et quand, sautant de la barque, le pauvre diable s'exposa en plein, il lui envoya de but en blanc 3 chevrotines rugueuses dans le ventre. Alors, se couchant à plat ventre, il se tint pour mort. Il entendit une grêle de plomb hacher et briser les buissons tout près de lui à sa droite. Puis, courbé en deux, sautant sans cesse d'un fourré à l'autre, il lança son message. Sur le dernier mot, il bondit de côté, se tint un instant quoi, et revint sain et sauf aux maisons, après s'être acquis une gloire que ses enfants ne sont pas prêts de laisser s'éteindre. Sur la colline, les mornes aventuriers courbaient la tête, et laissait se consumer les 2 petits tas de braise. Démonté, il restait assis à terre, en écoutant, les dents serrées et les paupières basses, les appels de leurs camarades. C'était un solide gaillard qui luttait ferme contre la mort. Ses gémissements, parfois très véhéments, prenaient en d'autres moments un étrange accent de douleur chuchotante. Il poussait un grand cri, puis se mettait, après un court silence, à proférer une longue plainte, inintelligible et délirante. Cela ne cessait plus. « À quoi bon ?» avait sans sourciller répondu Brown au Yankee, qui, avec force juron mâchonné, se préparait à descendre. « Vous avez raison, » approuva le déserteur, en renonçant à contre-cœur à son dessein. « Nous ne sommes pas ici pour encourager les blessés. Seulement, ce bruit-là risque de faire un peu trop songer les camarades à l'autre monde, capitaine. » « De l'eau !» cria le blessé d'une voix singulièrement claire et forte. Puis il recommença à gémir doucement. « De l'eau, oui, c'est l'eau qui va se charger de lui !» grommela l'autre d'un ton résigné. « Il en aura bientôt tant qu'il en voudra. Voilà le flot qui monte. » La marée montante vint enfin étouffer les plaintes et les cris de douleur. L'aube était proche, lorsque, assis, le menton dans la main et contemplant Patousan comme on peut regarder un inaccessible versant de montagne, Brown entendit l'aboiement bref et sonore d'un canon de 6 tiré quelque part au fond de la ville. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il à Cornelius, qui rôdait autour de lui. Cornelius écoutait. Un grondement sourd d'acclamations roulait sur la ville, le long du fleuve. Un gros tambour se mit à battre, et d'autres, bourdonnant et ronflant, lui répondirent. Éparses çà et là, de petites flammes s'allumèrent dans les quartiers sombres de la ville, tandis que la partie éclairée par la lueur des feux retentissait d'un murmure profond et prolongé. « Il est arrivé !» fit Cornelius. « Comment ? Déjà ? Vous en êtes sûr ? » demanda Brown. Oui, écoutez ce bruit.
Pourquoi font-ils un tel vacarme ? Reprit l'autre.
C'est la joie, grinça Cornelius. C'est un très grand homme, mais il n'en sait tout de même pas plus long qu'un enfant. Et ils font tout ce bruit pour lui faire plaisir, parce qu'ils ne sont pas plus malins que lui.
Dites donc, interrogea Brown, comment peut-on le toucher, cet homme-là ?
Il viendra vous parler, affirma Cornelius.
Que voulez-vous dire ?
Il va venir se promener par ici ?
Cornelius fit dans l'ombre un signe de tête énergique.
Oui, il va venir tout droit ici pour vous parler. C'est un vrai imbécile. Vous en jugerez vous-même.
Brown restait incrédule.
Vous verrez, insistait Cornelius. Il n'a peur de rien, de rien. Il va venir vous ordonner de laisser son peuple en paix.
Il faut que tout le monde laisse son peuple en paix.
Un vrai petit enfant.
Il va venir tout droit ici.
Hélas, il connaissait bien Jim, ce sale petit pleutre, comme l'appelait Brown.
Oui, certainement, poursuivit-il avec ardeur. Et alors, capitaine, il faudra dire à votre grand bonhomme au fusil de lui tirer dessus.
Tuez-le seulement, et vous verrez tout le monde si épouvanté ici que vous pourrez faire ce que vous voudrez, que vous aurez tout ce qui vous tentera, que vous vous en irez à votre gré.
Ah, ce sera beau!
Il était prêt à danser d'impatience et de fièvre, et Brown, qui le regardait par-dessus son épaule, voyait dans l'aube impitoyable ces hommes trempés de rosée, assis entre les cendres froides et les souillures du camp, hagards, abattus, en haillons.
Chapitre 41. Les feux de la rivière occidentale brillèrent d'un vif éclat jusqu'à la minute même où le grand jour parut les éteindre d'un seul coup. C'est alors que Brown aperçut, entre les premières maisons et dans un groupe immobile de silhouettes brunes, un homme tout de blanc vêtu, à l'européenne, casque en tête.
« Le voilà ! Regardez, regardez !» cria Cornelius avec fièvre.
Tous les compagnons de Brown bondirent et se rangèrent, les yeux ternes derrière son dos.
Le groupe bigarré des silhouettes à visage sombre et de l'homme blanc observait la colline. Brown voyait des bras nus levés pour protéger des yeux et d'autres bras tendus dans sa direction. Que pouvait-il faire? Les forêts qui arrêtaient de tous côtés ses regards délimitaient l'arène d'un combat inégal. Une fois encore, il considéra ses hommes. Mépris, lassitude, soif de la vie, désir d'une chance dernière, d'une autre tombe aussi, luttaient dans sa poitrine. Il lui semblait que là-bas, le blanc, à juger son attitude, examinait sa position à la lorgnette, avec toutes les forces du pays derrière le dos. Brown sauta sur un tronc d'arbre, les bras levés, les paumes en avant. Le groupe coloré se referma autour de lui et oscilla deux fois avant de laisser Jim s'avancer d'un pas lent, tout seul. Brown resta perché sur le tronc d'arbre jusqu'à ce que Jim, tour à tour caché et découvert par les buissons épineux, eut presque atteint le ruisseau. Alors, sautant de la barricade, Brown se porta au-devant de lui jusqu'à la berge. Ils durent se rencontrer non loin de l'endroit, peut-être à l'endroit même, où Jim avait risqué le second saut désespéré de sa vie, ce saut qu'il avait fait retomber au cœur du Patousan, qui lui avait valu la confiance, l'amour, l'admiration du peuple. Face à face avec le ruisseau entre eux, les deux hommes se dévisageaient ardemment, pour tâcher de se comprendre avant d'ouvrir les lèvres. Leur antagonisme devait éclater dans leurs yeux. Je sais que dès l'abord, Brown exécra Jim. Tous les espoirs qu'il avait pu caresser s'effondraient du coup. Ce n'était pas l'homme qu'il avait cru rencontrer. Pour cette déconvenue, il le haïssait déjà, et dans sa chemise de flanelle à carreaux, à manches coupées au coude, avec sa barbe grise et son visage hâve et brûlé, il maudissait au fond du cœur la jeunesse et l'assurance de l'autre, son clair regard et son maintien tranquille. Ce garçon-là avait trop d'avance sur lui. Il n'avait pas la mine d'un homme prêt à rien céder pour s'assurer une aide. Il possédait tous les atouts en main. Domination, sécurité, puissance. Il était secondé par des forces accablantes. Il ne connaissait ni la faim ni le désespoir et ne paraissait pas éprouver la moindre crainte. Il y avait quelque chose dans l'impeccable netteté de Jim, depuis le casque éblouissant
jusqu'aux jambières de toile et aux souliers blanchis, qui personnifiait aux yeux sombres et courroucés de Brown une correction que toutes les tendances de sa vie raillaient et condamnaient. « Qui êtes-vous ? » finit par demander Jim d'un ton posé. « Je m'appelle Brown, » répondit l'autre, très haut. « Capitaine Brown, et vous ?» Après un instant de silence, Jim reprit tranquillement, comme s'il n'eût pas entendu. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?»« Vous voulez le savoir ?» répliqua aigrement Brown. « C'est facile à dire, la faim. Et vous, comment êtes-vous ici ?»«
Ma question le fit tressaillir, » m'expliqua Brown, en me rapportant le début de l'étrange entretien de ces deux hommes, séparés seulement par le lit vaseux d'un ruisseau et qui se trouvait en fait aux antipodes de cette conception de la vie qui englobe toute l'humanité. Ma question le fit tressaillir, et il devint très rouge. Il se trouvait sans doute trop grand pour être interrogé. Je lui déclarai que s'il me tenait pour un homme mort avec qui l'on put prendre des libertés, il n'était pas du tout mieux en point lui-même. Un de mes hommes, là-haut, le couchait tout le temps en joue et n'attendait qu'un signe de moi pour tirer. Il n'y avait pas là, d'ailleurs, de quoi l'offusquer. Il était venu de son plein gré. « Admettons, dis-je, que nous soyons morts tous les deux et causons à égalité sur ce pied-là. Nous sommes tous égaux devant la mort. » Je reconnus que je me trouvais comme un rat pris au piège. Mais nous avions été poussés dans la trappe. Et même là, un rat peut mordre. « Pas si l'on reste loin de la trappe, tant que le rat n'est pas mort, » répondit-il, en relevant aussitôt mes paroles. Je déclarai que si pareille façon de faire pouvait convenir à ses amis indigènes, je le croyais trop blanc pour traiter même un rat de la sorte. Oui, j'avais désiré causer avec lui, mais ce n'était pas pour mendier notre vie. Mes compagnons étaient ce qu'ils étaient, des hommes comme lui en tout cas. Tout ce que nous lui demandions, c'était, de par le diable, de venir vider la querelle. « La peste vous étouffe, » criai-je, sans le faire bouger plus qu'un piquet. « Vous n'allez pas venir tous les matins avec votre lorgnette voir combien de nous reste sur pied. Allons, lâchez votre bande d'enfer contre nous, ou laissez-nous filer et crever de faim sur mer. Bon Dieu ! Vous avez été blanc aussi, malgré les grands airs que vous prenez pour dire que ces gens-là sont votre peuple, et que vous ne faites qu'un avec eux. Est-ce vrai ? Qu'est-ce que cela peut bien vous rapporter, que diable ? Et qu'est-ce que vous avez donc déniché de si précieux ici, hein ? Vous ne voudriez pas que nous descendions à découvert, peut-être ? Vous êtes 200 contre un. Vous n'allez pas nous demander de descendre ici. Ah, je vous promets que vous trouverez du fil à retordre avant d'en avoir fini avec nous. Vous m'accusez d'avoir lâchement attaqué des gens inoffensifs. Que m'importe à moi qu'ils soient inoffensifs, quand pour une peccadille je me vois près de mourir de faim ? Mais je ne suis pas un capon. N'en soyez pas un non plus. Amenez vos hommes contre nous, ou par tous les diables, nous saurons encore faire sauter en fumée la moitié de votre ville inoffensive au ciel. » Il était terrible en me racontant cela, ce squelette torturé et recroquevillé, genoux au menton, sur un grabat dans ce bouge infâme. Il levait les yeux sur moi pour me regarder avec une mine de triomphe féroce. Voilà ce que je lui ai dit. Je savais bien ce qu'il fallait dire, reprit-il d'une voix faible d'abord, mais en s'exaltant avec une incroyable rapidité pour trouver des accents de mépris féroces. « Nous n'allons pas filer dans la forêt et y errer comme une troupe de squelettes vivants, tombant l'un après l'autre pour engraisser les fourmis avant d'être bien morts. Ah non !»« Vous ne mériteriez pas mieux, » répondit-il. « Et vous, qu'est-ce que vous méritez ? » criai-je. « Vous que je vois fouiner ici la bouche pleine de votre responsabilité, de ces vies innocentes, de votre maudit devoir. » « Que savez-vous donc sur moi de plus que moi sur vous ? Je suis venu ici chercher les vivres, entendez-vous ? De la nourriture pour nous remplir le ventre. Et vous, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Qu'est-ce que vous avez demandé en arrivant ici ? Nous n'exigeons, nous, qu'un combat loyal ou le chemin libre pour retourner d'où nous venons. « Je me battrai volontiers avec vous tout de suite, » me dit-il en tirant sa petite moustache. « Et moi, je vous laisserai bien tirer sur moi, » répondis-je. Faire le grand saut ici ou ailleurs, qu'importe. Je suis écœuré de mon infernal des veines, mais ce serait trop commode. J'ai mes camarades avec moi dans la nasse, et par Dieu, je ne suis pas homme à me tirer d'affaire en les laissant dans le pétrin. » Il réfléchit un instant, puis me demanda ce que j'avais pu faire, là-bas. Il désignait l'embouchure du fleuve d'un signe de tête pour me trouver aussi mal en point.
Sommes-nous ici pour nous raconter l'histoire de nos vies ? Criai-je.
Et si vous commenciez ?
Non ?
Oh, je vous assure bien que je n'ai nulle envie d'écouter votre histoire.
Gardez donc vos affaires pour vous.
Je sais qu'elles ne sont pas plus reluisantes que les miennes.
J'ai vécu,
et vous aussi, malgré vos mines et vos façons de parler comme si vous étiez de ces gens qui attendent des ailes pour pouvoir bouger sans toucher la boue du sol.
Et il y en a de la boue.
Moi, je n'ai pas d'ailes.
Je suis ici parce que j'ai eu peur, une fois dans ma vie.
De quoi ? Vous voulez le savoir ?
D'une prison.
La seule idée m'en épouvante, et je n'hésite pas à vous le dire si cela peut vous rendre service.
Je ne vous demanderai pas quelle terreur a pu vous amener dans ce trou infernal où vous paraissez avoir su faire votre pelote.
C'est votre chance, et voilà la mienne à moi. C'est le privilège d'implorer la faveur d'être tué tout de suite, ou de me faire chasser à coups de pied pour m'en aller librement crever de faim où il me plaira.
Son corps affaibli tremblait d'une joie si véhémente, si féroce et si maligne, qu'elle paraissait avoir mis en fuite la mort aux aguets dans cette hutte. Le cadavre de son monstrueux égoïsme sortait des haillons et de la misère comme de la sombre horreur d'une tombe. Il est impossible de dire la part de mensonge que comportaient ses paroles à Jim ou à moi, ou comment il se mentait toujours à lui-même. La vanité joue avec notre mémoire des farces sinistres, et toute passion sincère a besoin de prétextes pour vivre. Debout, en costume de mendiant, aux portes de l'autre monde, il avait craché au visage d'une autre, l'avait souffleté, l'avait accablé de l'immensité du mépris et de révolte qui faisait le fond de ses méfaits. Il les avait tous démolis, hommes, femmes, sauvages, commerçants, bandits, missionnaires, jusqu'à Jim, ce coquin à face de pleutre. Je ne lui marchandais pas ce triomphe, in articulo mortis, cette illusion presque posthume d'avoir écrasé toute la terre sous ses pieds. En entendant ses bravades, en assistant à son agonie sordide et repoussante, je ne pouvais m'empêcher de songer aux gorges chaudes que l'on avait faites autour de son aventure au temps de sa plus grande splendeur. C'était l'époque où, pendant plus d'un an, on avait vu rôder jour après jour le navire de Gentleman Brown autour d'un îlot frangé de verre, détaché sur l'azur, avec le point noir de la mission contre la plage blanche. À terre, Gentleman Brown ensorcelait une jeune créature romanesque dont la Mélanésie avait tourné la tête et donnait au mari un espoir de conversion remarquable. On avait entendu un jour le pauvre homme exprimer l'intention d'amener le capitaine Brown à une vie meilleure. Il voulait embarquer Gentleman Brown pour le pays de la gloire éternelle, comme l'expliquait un farceur au regard torve, afin de leur montrer là-haut ce que c'est qu'un capitaine au long cours de l'Ouest Pacifique. C'était cet homme-là encore qui avait enlevé une mourante et versé des pleurs sur son cadavre. Emporté comme un grand bébé, ne se lassait jamais de raconter son second de l'époque. Et je veux être tué à coups de pied par des canaques maboules si je vois ce qu'il a pu y avoir de drôle dans l'affaire. Tenez, messieurs, elle était déjà trop malade pour le reconnaître quand il la porta à bord. Elle restait allongée sur la couchette du capitaine avec des yeux affreusement brillants attachés au plafond, et c'est comme cela qu'elle mourut. Sacrée espèce de fièvre, pour sûr. Je me remémorais toutes ces histoires, pendant que le moribond, essuyant d'une main livide la broussaille de sa barbe sur sa couche douloureuse, me disait comment il avait su faire le tour de ce maudit bonhomme immaculé et intangible, et lui entrer dedans jusqu'au cœur. Il n'avait pu lui faire peur, c'est vrai, mais il y avait une porte, large comme une porte cochère, pour entrer dans son âme de quatre sous, la secouer et la retourner sans dessus dessous, bordel!